Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rien ne peut justifier ce type de publication si ce n'est la volonté de nuire, l'indignation de l'avocat d'Éric Zemmour qui porte plainte après la diffusion dans Paris Match de photos intimes. On y voit le polémiste au bord de la mer, très proche de sa conseillère Sarah Knafo. Bonjour Louis de Ragnel.
Bonjour.
D'habitude, être à la une de Paris Match, c'est un passage obligé, voire une consécration pour les candidats ou les quasi-candidats à la présidentielle.
Oui, vous avez raison, sauf que là, il ne s'agit absolument pas d'une mise en scène comme ça a pu parfois exister par le passé. Éric Zemmour a été photographié à son insu dans un moment de sa vie privée. Alors, selon nos informations, ça s'est passé au lendemain de sa séance de dédicace vendredi dernier à Toulon. Plus exactement, la photo a été prise le matin, aux alentours de 9h30, sur une plage où se trouvait beaucoup de monde, à peu près 300 personnes, parmi lesquelles certains ont d'ailleurs pris photo et selfie avec Éric Zemmour, avant et après sa baignade, en présence donc de sa conseillère. Ce que ça montre, c'est qu'Éric Zemmour ne s'est absolument pas caché. Il était au vu et au su de tous, avec beaucoup de monde autour de lui. Certains dans son entourage racontent que le journaliste le vit très mal personnellement, mais il se demande si au fond, Éric Zemmour ne voulait pas que ça finisse par se savoir avant sa déclaration de candidature et éviter ainsi qu'une telle révélation ne survienne au milieu de sa campagne.
Louis, cela contrarie-t-il ses ambitions politiques ?
Alors,
éventuelles ambitions politiques.
Alors oui, il faut parler d'éventuel, puisqu'il est quasi candidat, ça veut dire qu'il n'est officiellement pas encore candidat. Donc politiquement, il est encore un peu tôt quand même pour tirer un enseignement. En revanche, on a le sentiment que pour Éric Zemmour, ça ne change rien. Et je peux vous dire que pour le moment, il n'est pas question, vous l'avez dit, il n'est pas question pour lui d'annuler son débat ce soir face à Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Un débat très attendu, sans doute regardé par des millions de Français. Deux fauves qui se connaissent très bien et qui, pour la première fois, croiseront le fer, non pas comme journaliste et politique, mais comme deux politiques ou un politique et un quasi-politique. Pas question non plus pour Éric Zemmour d'annuler sa participation au grand rendez-vous d'Europe 1 et CNews. Notez-le bien d'ailleurs dans votre agenda, ce dimanche à 10h, animé par Sonia Mabrouk. Pas question enfin d'annuler son déplacement en Hongrie demain, où il doit être reçu en tête-à-tête par Viktor Orban. Preuve s'il en fallait que le journaliste quasi-candidat veut montrer que ses révélations ne changent rien, absolument rien, à ses plans et à sa détermination.
Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1, Zemmour, Mélenchon, 40 ans d'estime et de respect mutuel. On vous racontera ça tout à l'heure à 8h40 dans le Zoom Info. J'ai beaucoup d'amitié pour Xavier depuis très longtemps. Il a été pour moi un très bon ministre. Les mots de Nicolas Sarkozy hier à l'égard de Xavier Bertrand.
Lors d'une séance de dédicace de son livre à Calais, l'ancien président s'est confié sur ses sentiments. Il précise néanmoins, je cite, que la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec les Français. Ça ne dépend pas de ce que peuvent dire les uns ou les autres.
Xavier Bertrand, qui pour l'heure est en tête chez les Républicains, résultat du sondage IFOP commandé par le parti avant sa primaire.
Les autres candidats, Michel Barnier, Éric Ciotti et Valérie Pécresse, sont dans un mouchoir de poche. Les candidats LR seront désignés. Le candidat LR sera désigné le 4 décembre prochain pour la présidentielle. Le mode de scrutin sera décidé ce samedi.
Il est 8h04 sur Europe 1. Allô Paris. Ici la Maison Blanche. Emmanuel Macron et Joe Biden ont échangé au téléphone hier après plusieurs jours de crise diplomatique entre les deux pays.
Tous deux le reconnaissent. Des consultations entre alliés auraient permis d'éviter cette situation. Mais les tensions s'apaisent. L'ambassadeur français qui avait été rappelé va finalement retourner à Washington. Tout semble donc se calmer. Et ce matin, le patron de Naval Group est sorti du silence. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Dans le Figaro ce matin, Éric Pommelet revient sur les conditions rocambolesques, il faut le dire, de l'annulation de ce contrat.
En effet, chez Naval Group, on l'assure, tous les voyants étaient au vert. Le fabricant des sous-marins le promet. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Personne ne lui a demandé de réfléchir à un plan B. Au contraire, le patron de Naval Group révèle même avoir reçu le matin même de l'annonce de l'arrêt du contrat un courrier stipulant que tout était prêt pour avancer sur ce dossier. Tout se serait donc joué en quelques heures. Ce même mercredi 15 septembre, la direction de Naval Group a été invitée à une audioconférence en dernière minute avec le ministre de la Défense australien. C'est là qu'ils ont appris la nouvelle. Nous étions sous le choc. Cette décision nous a été annoncée sans préavis avec une brutalité inouïe, assure-t-il. Il parle d'une décision politique et il compte bien faire payer les Australiens pour cet affront. Nous sommes face à un client qui appliquera le contrat et nous ferons valoir tous nos droits, promet-il. Naval Group qui se dit touché, mais pas coulé. Le groupe l'assure, le carnet de commandes reste bien rempli.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Lumière à présent sur un fléau qui se développe sous les radars, la prostitution des mineurs.
TF1 diffuse ce soir Fugueuse, une mini-série sur le sujet. Entre 7000 et 10 000 jeunes filles de moins de 15 ans se prostituent en France. Plusieurs associations tentent de les aider à sortir de ce piège. À Lille, par exemple, un foyer les accueille. Virginie Riva a pu y rencontrer de très jeunes filles. Tendez l'oreille, leurs voix ont été modifiées pour garantir leur anonymat.
Quand je me suis retrouvé à faire l'acte, en fait, j'étais dégoûté. J'avais les yeux qui pleuraient, j'étais vraiment pas à l'aise. Le client a dû remarquer, mais lui s'en fichait, en fait.
Julie a aujourd'hui 17 ans, un parcours de vie compliqué, ballotté de foyer en famille d'accueil. Ses activités, elles n'ont pas toujours lieu dans la rue. Soirées passent dans des Airbnb. Les réseaux sociaux ont grandement facilité la prostitution des mineurs. Le proxénète est souvent le petit copain. À Lille, l'association Solfa les accueille en semi-autonomie. Elles peuvent, dans un premier temps, continuer leurs activités pour se reconstruire et en parler librement à Céline Carissimo, psychologue.
Ils expliquent que plus elles sont jeunes, plus les tarifs sont élevés. Mais au niveau des clients, il y a un seuil à pas dépasser. 15 ans, ça passe. En dessous de 15 ans, elles ne le disent pas forcément.
15 ans, c'est désormais l'âge fixé par la loi pour supposer le consentement sexuel. Le cercle vicieux, c'est celui de l'argent. Julie et Jessie, 12 ans.
Quand tu travailles, tu te fais 1200 euros par mois. Ouais. Nous, on est là, on se fait 200 euros par jour, on se fait 10 000 euros par mois.
Alors, c'est pas de l'argent, je dirais pas c'est de l'argent facile, mais c'est de l'argent rapide.
De l'argent qui sert notamment à acheter toutes sortes de drogues. Mi-octobre, le ministre en charge de l'enfance, Adrien Taquet, doit annoncer un plan pour lutter contre la prostitution des mineurs.
Reportage signé Virginie Riva.
C'était un coup de poker, une folie salutaire. Le 13 novembre 2015, le premier policier entré au Bataclan dans la salle de spectacle quelques minutes après le début de la fusillade, sans l'accord de sa hiérarchie.
Hier, ce commissaire qui préfère rester anonyme a témoigné au procès des attentats. Gladys Laffitte, vous avez écouté son histoire, celle d'un homme dévoué et courageux.
En un regard, le commissaire et son équipier se sont mis d'accord pour pousser les portes du Bataclan en pensant qu'on ne les franchirait pas dans le sens retour, acte d'emblée le policier à la barre. Mais il faut qu'on y aille. Avec pudeur et humilité, il décrit d'abord un tapis de corps et puis une voix, celle d'un terroriste qui menace un otage près de la Seine. Le fonctionnaire tire alors 4 coups. Le terroriste tombe et se fait exploser. Dans sa kalachnikov, une cartouche est chambrée. Le commissaire vient de sauver l'otage. Mais il est ensuite la cible de tir. Alors par réflexe, il dit adieu à ses proches. On allait mourir ce soir-là, c'était écrit. Pourtant, il sort et rentre plusieurs fois dans le Bataclan, sauve d'autres victimes qu'il tire de la fosse alors à découvert. Des personnes lourdes, car elles avaient baigné dans le sang, précise-t-il. Sous décor, un petit garçon de 5 ans, un casque anti-bruit sur les oreilles. Il est encore vivant aujourd'hui. Malgré ses vies sauvées, le commissaire exprime un remords, ne pas avoir pu extraire d'autres victimes. On n'avait que notre courage à opposer aux terroristes. On ne pouvait pas aller plus loin, regrette-t-il.
Gladys Laffitte.
Enfin, J-3 avant le passage aux urnes des Allemands. Ils votent pour le renouvellement du Bundestag ce dimanche.
C'est leur parlement fédéral et ils désigneront ensuite leur chancelier. Angela Merkel tire sa révérence, on le sait, mais son parti, la CDU, a un nouveau champion, Armin Laschet, candidat qui avait tout pour succéder à Merkel, mais qui a enchaîné les bourdes de campagne, Hélène Kohl.
Les forces d'Armin Laschet sont devenues ses faiblesses. Dans sa ville d'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne, dont il serait un lointain descendant, il a tissé des liens avec les Verts. Son ami écolo, Herman Pilgram, salue son travail quand il était ministre de l'Intégration.
Il s'est beaucoup engagé pour les immigrés. Il les a beaucoup encouragés avec des aides ciblées et contre les résistances de son propre électorat.
Mais à force de vouloir parler avec tout le monde, Armin Laschet a perdu en crédibilité. Pendant la crise sanitaire, il a sans cesse changé de cap dans son land de Rhénanie et contredit la chancelière dont il est pourtant un fidèle. Mais c'est surtout sa légèreté face aux inondations de mi-juillet dans l'ouest de l'Allemagne qui a entaché sa réputation. Pour ce défenseur du charbon, le drame qui a fait près de 200 morts ne justifie pas qu'on change la politique. Petite phrase désastreuse prononcée quelques heures après avoir été vu en train de rire dans un village endeuillé. Depuis, il a perdu 17 points dans les sondages. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.